Radio Okapi. Interface.
La République démocratique du Congo est dotée désormais d'un cadre de régulation de son espace numérique. Le président de la République a promulgué le week-end de la semaine dernière la loi portant code du numérique. Adoptée auparavant par le Parlement, cette nouvelle loi crée un cadre législatif pour mieux encadrer le développement du secteur numérique en RDC. Les habitudes infractionnelles qui passaient autrefois pour des faits normaux sur Internet sont désormais punies par la nouvelle loi. C'est le cas d'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux, la diffamation, la publication des images pornographiques des mineurs et tant d'autres. Le nouveau code du numérique touche le quotidien des Congolais et mérite un décryptage particulier dans Interface. Nous recevons donc dans cette émission le professeur d'université Kodjo Ndoukouma, spécialiste en droit du numérique. Professeur Kodjo Ndoukouma, bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi.
À la coordination et présentation, je suis Michel Kifindangoy. Merci de rester à l'écoute. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs des Radio Okapi, bienvenue dans Interface qui explique le code du numérique promulgué par les chefs de l'État le week-end de la semaine dernière. Tout de suite, Actu Hebdo.
Interface.
Le secteur du numérique est désormais régulé en RDC. La loi promulguée par les chefs de l'État après son adoption au Parlement vient de mettre fin à l'anarchie et à l'absence de la législation dans ces secteurs qui embrasent la vie nationale avec notamment la communication numérique, le commerce en ligne, les réseaux sociaux et tant d'autres. Au cours d'adoption de ces textes à l'Assemblée nationale, le ministre du numérique Eberhan Kolongele a estimé qu'avec cette loi, la RDC est en train d'organiser sa cyber-résilience en protégeant son système d'information.
Avec le code du numérique, notre pays se dote pour la toute première fois de son histoire d'un cadre juridique régulant les activités et les services du numérique. Donc, dorénavant, avec ce texte dans notre pays, quiconque veut être un acteur exerçant une activité numérique ou un service numérique doit se fonder sur des règles prévues dans ces codes. Ces codes ont également l'avantage de pouvoir légiférer sur les écrits outils électroniques. Par exemple, avant, les emails, les messages WhatsApp et autres écrits électroniques n'avaient pas un cadre juridique, n'avaient pas, j'allais dire, une valeur légale. Aujourd'hui, ces écrits, outils électroniques, grâce au code du numérique, vont avoir dorénavant, n'est-ce pas?
De quoi traite le nouveau code du numérique? Jacques-Yves Molima nous en fait l'économie.
Divisé en 5 livres hormis les préliminaires, ce code du numérique part des activités et services du numérique qui est le livre 1 jusqu'aux dispositions transitoires, abrogatoires et finales qui constituent le 5e livre. Ce code met en équilibre les principes de liberté dans le cyberespace d'une part et la protection de la vie privée, de la sécurité des échanges et des progrès sociaux de l'autre. Ainsi, le livre 1 parle, entre autres, des régimes juridiques applicables aux activités et services numériques, de l'administration électronique et du commerce en ligne. Son second livre s'appesantit sur les écrits et les outils électroniques. Le troisième, qui semble être le plus important, scrute les contenus numériques en mettant l'accent sur la protection des contenus publics et des données électroniques privées. Pour ce faire, une autorité de protection des données est même instituée. Enfin, le quatrième livre aborde la question relative à la sécurité, à la protection pénale des systèmes d'information numérique. C'est ici que sont prescrites les sanctions pénales eu égard aux infractions. Ces dernières se rapportent à l'accès non autorisé aux données personnelles, en passant par des usurpations d'identité, des tromperies jusqu'aux informations mensongères, des fake news et autres diffamations.
Outre le ministère en charge du numérique qui met en œuvre la politique du gouvernement dans les secteurs, quel est le cadre institutionnel mis en place par le Code du numérique pour réguler ce secteur? Jacques-Yves Molima.
D'abord, l'autorité de régulation du numérique. C'est un établissement public doté de personnalités juridiques. Elle est placée sous tutelle du ministère du numérique. Son rôle est d'assurer la police des activités du secteur du numérique. Elle veille à l'équité des prix et à la qualité des services rendus aux utilisateurs. Elle protège également les intérêts des utilisateurs et des fournisseurs des services. Vient ensuite l'autorité nationale de certification électronique. Sous tutelle du ministère du numérique, cet établissement public fixe les caractéristiques des dispositifs de création et de vérification de la signature, du cachet et de l'archivage électronique. Elle veille également à l'authentification des sites Internet. Il y a ensuite l'organe consultatif dénommé Conseil national du numérique. Sous tutelle de la présidence de la République, il sert de cadre de concertation et d'évaluation des projets du gouvernement dans le secteur du numérique. Enfin, c'est la mise en place d'une agence de cybersécurité, organisme public qui relève de l'autorité du président de la République. Elle est en charge de la sécurité des systèmes informatiques en RDCI. En plus, elle assure la conformité et l'audit des systèmes informatiques et des réseaux de communication électronique.
Face aux mauvaises habitudes et abus observés dans différentes publications sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques qui constituent des infractions conformément à l'actuelle loi, comment le Code du numérique sanctionne-t-il ces cas, par exemple d'usurpation d'identité, d'atteinte à la vie privée, d'harcèlement et autres, les choualassa?
Ce nouveau Code du numérique des 390 articles réserve son dernier livre aux sanctions contre toute infraction commise dans les secteurs. Il s'avère qu'aujourd'hui, plusieurs habitudes des internautes constituent des infractions pouvant amener leurs auteurs à l'emprisonnement et au paiement des amendes. À titre d'exemple, l'intrusion, le piratage et la modification des données d'un site web ou d'un compte numérique privé très fréquent sur Internet sont désormais punis par l'article 332 du présent code d'une peine de servitude pénale de 3 à 5 ans et d'une amende de 50 millions à 100 millions de francs congolais. Celui qui transfère sur Internet sans autorisation de la personne concernée des données à caractère personnel de cette dernière sera puni, conformément à l'article 335, de 6 mois à 3 ans de prison et d'une amende de 5 à 100 millions de francs congolais. L'usurpation d'identité est désormais punie par l'article 351 d'une servitude pénale d'un à 5 ans et d'une amende de 20 millions à 100 millions de francs congolais. La diffusion du contenu tribal, xénophobe, calomnieux ou même pornographique sont aussi punis par les articles 356 à 360 du présent code du numérique.
Anymore, all they build will be prison. They won't build no schools anymore. All they build will be prison, prison. They won't build no schools anymore. All they build will be prison, prison. Cause today,
d'écouter Lucky Dubé dans Prisonnier. Nous recevons à présent dans cette émission le professeur Kodjo Ndoukouma, spécialiste en droit du numérique. Avec lui, nous parlons du code du numérique promulgué le week-end de la semaine dernière par le président de la République. Professeur Kodjo Ndoukouma, bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi.
Que pouvons-nous retenir de l'ordonnance loi portant code du numérique en RDC?
Oui, le code du numérique est venu ajouter deux éléments importants pour les juristes hein, dans les règles de compétence et dans la responsabilisation des personnes morales. Il y a une disposition du code dans le livre relatif à la cybercriminalité, donc la pénalisation de toute atteinte au système informatique, qui dispose que est supposé commis sur le territoire national de la République démocratique du Congo toute infraction sur Internet qui serait accessible à partir de la RDC ou qui serait manifestement destinée à un public congolais. Donc là, je paraphrase. Et puis également, il y a des sanctions contre les personnes morales, notamment l'interdiction d'exercice ou la fermeture de l'activité. Et donc, c'est quand même des grandes innovations qui apporte un bouleversement qui est tout à fait compréhensible sur les règles de compétence territoriale et sur les règles de responsabilisation, non plus seulement des personnes physiques, mais aussi des personnes morales.
Cette loi compte 390 articles. Comment est-elle déclinée et que traite-t-elle dans les différents livres qui la composent?
Ce code du numérique, de ce que nous avons pu recenser, compte 5 livres. Le premier livre porte sur les activités et les services numériques. Le deuxième livre concerne les écrits et les outils électroniques des prestataires des services de confiance. Le troisième livre concerne les contenus numériques. Le quatrième livre se rapporte à la sécurité et à la protection pénale des systèmes informatiques. Et le cinquième livre concerne les dispositions finales, abrogatoires et transitoires. Mais c'est qu'il y a, pour chacun de ces livres, il y a quand même une lisibilité de la réglementation congolaise aujourd'hui sur le cadre institutionnel des activités et services numériques, sur la régulation de ces services et sur les régimes pour toutes les personnes qui veulent agir dans ce secteur-là. Il y a des questions qui sont tranchées sur l'homologation des équipements et sur les principaux droits et obligations de tous ceux qui fournissent des activités et services numériques.
Le domaine du numérique était depuis longtemps non régi par la loi et cela donnait beaucoup plus de liberté tant aux opérateurs dans les secteurs qu'aux utilisateurs. Qu'est-ce qui va désormais changer avec la promulgation de cette loi?
Le numérique, c'est trois dimensions possibles. C'est à la fois un système d'exploitation lié à l'informatique et à la mathématique, mais c'est aussi un secteur d'activité. C'est en troisième lieu également l'ordre de transformation que la popularisation de l'Internet et la mise en données du monde apportent dans tous les domaines de la vie. Commerce électronique, preuves électroniques, données numérisées, archivage électronique, dématérialisation des procédures administratives et ainsi de suite. Et dire donc que le numérique n'a jamais été régi dans l'un ou l'autre de ces aspects est quand même assez sévère, mais ce qu'apporte le code du numérique aujourd'hui, c'est une concentration de la législation sur les enjeux saillants, les enjeux sociétaux du numérique, de la transformation numérique et du numérique comme norme d'exploitation des activités informatiques stricto sensu ou des activités économiques et sociales.
Le code du numérique embrase aujourd'hui tous les secteurs de la vie nationale.
locales, allant de l'administration aux échanges commerciaux, passant par la sécurité, l'éducation et le social. Comment l'État compte-t-il instaurer son autorité dans un secteur si vaste et transversal?
Le numérique est à la fois un outil expressif et un outil intrusif. Autant que le numérique est aussi un outil collaboratif et un outil d'apprentissage. Nous utilisons le numérique au Congo dans ses aspects souvent récréatifs. Une étude a montré que nous utilisons beaucoup les sites internet pour l'accès aux connaissances évangéliques et puis aussi les jeunes pour tout ce qui est pornographie. Je pense que ailleurs, les personnes sont passées au niveau de l'économie numérique en tirant les meilleurs profits de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la production, dans la commercialisation et dans la consommation des richesses. Et il faudrait donc que nous fassions, comme le plan national du numérique le dit, de ce numérique-là un levier de croissance et un levier de promotion des valeurs. L'administration électronique est un avantage dans ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo pour rapprocher l'administration de ses administrés. Les gens n'auraient probablement pas à se déplacer pour avoir un guichet dématérialisé des services d'état civil pour les actes de naissance, des services d'information pour savoir quelles sont les modalités pour avoir un passeport. Et donc, il faudrait également à l'administration, dont 90% de fonctionnaires n'utilisent pas à leur poste des ordinateurs, que cette administration puisse également se moderniser.
Le Code du numérique institue plusieurs organes pour réguler les secteurs. Quelle est la spécificité de chaque organe et comment seront-ils financés? Ne craignez-vous pas qu'ils soient budgétivores?
Le cadre institutionnel du numérique congolais est quand même très hétéroclite et très cosmopolite. Vous savez, nous avons la particularité ici au Congo d'avoir deux ministères qui s'occupent de la même chaîne de valeur. Vous avez le ministère des PTNTIC déjà, qui en son sein a une autorité de régulation des postes et des télécoms, intrasectorielle. Et puis maintenant, vous avez le ministère du numérique, qui semble s'occuper de la couche haute de l'Internet, donc la couche des applications, des contenus et de tout ce qui est support sémantique. Mais encore là, le Code du numérique est venu ajouter 5 institutions dans son cadre institutionnel. Vous avez le ministère lui-même, l'autorité de régulation du numérique, l'autorité nationale de certification électronique, l'agence nationale de cybersécurité et le conseil national du numérique. Voilà, vous avez des pays comme la Grande-Bretagne, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, qui ont compris que ça ne servait à rien de partir sur des modèles de régulation sectorielle. Autant de secteurs qu'il y a de régulateurs qui fonctionnent chacun en cloisonnement ou en silo. Alors que l'Internet, lui, il est global, nous pensons local et nous pensons sectoriel. Non seulement qu'en termes d'efficacité de l'action, vous n'aurez pas une coordination de tous ces organes disparates par rapport à la vision que nous voudrions imprimer à notre Internet. Ça, c'est déjà un. Et puis deux, vous avez déjà des sérieux problèmes de faire fonctionner, prenant l'autorité de régulation des postes de télécommunications, avec des moyens qui, pendant un temps, ont été récupérés par la Caisse du Trésor. Maintenant que vous avez une autorité de régulation du numérique, il est dit dans la loi que une quotité de 3% devant revenir au fonds des services universels qui, lui, est sous l'autorité du ministre des PTNTIC, doit revenir à l'autorité de régulation du numérique qui est sous l'autorité du ministère du numérique. Mais ces 60 millions doivent encore être partagés avec l'autorité de régulation du numérique qui a des fonctions qui sont quand même tentaculaires. Il se pose le problème. Il y a un conseil national du numérique qui n'a pas de force contraignante sur les autres agences et autorité et qui est censé assurer une sorte d'orientation intellectuelle sur tout ce cadre institutionnel qui est hétérogène.
Mbaka Mozuna Kingwe Bende, Maître le Mabe, Bobo Fanta.
Inangana bolingo lokola ya moko omilingaka, yelanga bolingo oya solo oya verite.
Motindo toyoka Bienvenue volcan Bakutusin. Nganda Monique na Luanda na Beleli Abdul na Luanda. Sabumvoa Eme Abil Alvaro Mwanda. Prochaine Wasiti Selenge Apollinaire. Partout se canta Oki Mukaba.
Limanga
King Makiadi. Mathieu Mbumba, il n'y a pas de député
européen.
Il n'y a pas de
député européen.
Il n'y a pas de la musica di Pepe.
Nalini yo Mibeko.
Ma chino mongana Desire Malundi.
Nalini yo Mibeko.
Président Fabrice Massé Congo. Droga d'Afrique. Yaya Mbosa Yaya.
Vous venez de suivre Blaise Boula dans Mibeko. Nous revenons à notre invité, le professeur Kodjo Ndukuma, spécialiste en droit du numérique. Avec lui, nous décryptons à présent les obligations et sanctions prévues dans l'actuelle loi régissant le secteur. Alors, professeur, comment sera désormais régi le commerce électronique en RDC?
Oui, l'article 2.15 de l'ordonnance loi portant code du numérique donne une définition assez restrictive du commerce électronique comme étant l'activité commerciale par laquelle une personne propose ou assure par la voie électronique ou via un système informatique, moyennant paiement des prix, la fourniture des biens et des services. Cette définition restrictive ne rencontre cependant pas, en termes de cohérence interne, les articles relatifs au régime même du contrat sous forme électronique faisant partie du commerce électronique. De 1, les articles sur le contrat sous forme électronique, les articles 53 et suivants de la même ordonnance loi, parlent de la notion de professionnel. Et à part cela, le commerce électronique n'implique pas forcément le paiement d'un prix. Lorsque vous allez sur un site de traduction qui est gratuit, ce site fait du commerce électronique sans pour autant vous faire payer un prix. Lorsque vous allez sur YouTube et que vous y mettez vos contenus, YouTube fait du commerce électronique parce qu'il passe de la publicité au-dessus de votre contenu qui est plutôt thématique. Mais pour le service direct de mise en ligne, de téléversement, comme on dit, des contenus sur son support, vous ne payez rien. Maintenant, les régimes, il est assez libre, mais présente également beaucoup d'éléments de sanctions et des restrictions. Mais l'avantage, certes, c'est que ce commerce électronique aujourd'hui et les contrats qui vont en découler deviennent des contrats nommés. Il y a une définition légale désormais qui est donnée du commerce électronique qui est le point d'imputation du régime sur la protection des cyberconsommateurs et sur l'exécution des bonnes foi des obligations nées des échanges électroniques. Bon, il y a aussi la question de la preuve électronique aujourd'hui qui est équivalente à la preuve sur papier, mais malheureusement ce code du numérique ne dit pas quelles sont les conditions de recevabilité de cette preuve électronique. Les deux conditions connues dans les autres législations comparées, c'est que l'écrit électronique doit pouvoir être d'un caractère d'intégrité et doit pouvoir être rattaché à une personne, mais le mérite revient également dans ce commerce électronique à l'introduction en droit congolais par le code du numérique du droit de rétractation. Ça veut dire que ce n'est pas une annulation de contrat, ni une résolution du contrat, mais au niveau de l'exécution, lorsque une personne qui a contracté en ligne par la séduction de l'écran ou par la frénésie d'Internet n'a pas encore reçu le bien, en déant 48 heures, j'ai vu dans le code, ou 72 heures, cette personne peut se rétracter.
Aujourd'hui, le numérique arrive avec sa dose de problèmes, les fake news, les diffamations, les atteintes à la pudeur, l'escroquerie électronique, les atteintes à la vie privée, l'usurpation d'identité et autres. Comment cette loi envisage combattre ces antivaleurs?
Bon, c'est tout l'honneur et le mérite de cette ordonnance-loi portant code du numérique que d'avoir prévu des nouvelles incriminations contre la cybercriminalité. C'est aussi le mérite et l'honneur de cette ordonnance-loi portant code du numérique que d'avoir prévu certaines dispositions adaptées pour les règles de compétence de nos cours et tribunaux et pour la conduite de la procédure pénale. Déjà, tout ce qui est fausse information circulant sur les réseaux sociaux est incriminé par les articles pertinents de l'ordonnance loi portant code du numérique. Vous avez également une nouvelle forme de complicité qui a été insérée à l'article 372 de cette ordonnance loi portant code du numérique contre toute personne qui filmerait une infraction portant atteinte à l'intégrité d'une personne. Toute personne qui filmerait une infraction en serait tenu pour complice. Mais ça pose un problème avec les lanceurs d'alerte, ça pose un problème avec les témoins. Il existe déjà une infraction de non-assistance à personne en danger, mais celui qui filme une infraction en est complice en quoi? Et ça fait quand même reculer ce droit de dénonciation de la population sur un certain nombre de faits dont cette population serait témoin et dont elle demanderait aux autorités publiques une action. Mais pour l'ensemble, il y a aujourd'hui une agence nationale de cybersécurité, il y a également des incriminations sur les fausses informations que les gens pourraient divulguer, il y a également un renforcement de toutes les infractions déjà prévues concernant à mettre en scène des personnes dans leur plus simple appareil, en mettant en scène des personnes dans le sens d'attenter à leur honneur, d'attenter à leur pudeur, toutes ces questions de sextape. Donc, c'est un code que la justice devra pouvoir s'approprier, parce que vous voyez, il y a tous les mécanismes d'interception des données, de téléperquisition.
Quelles sont les infractions prévues par la nouvelle loi et comment le ministère public compte-t-il s'en saisir? Y a-t-il un mécanisme de documentation numérique et automatique des différentes infractions du numérique?
La justice doit pouvoir entrer en possession des preuves, percer les sources techniques qui contiennent ces preuves et savoir les décoder, les exploiter, pour la manifestation de la vérité judiciaire. Donc il faudra que le pays s'équipe en laboratoire d'informatique, ça veut dire des laboratoires de traitement de la preuve électronique, des signatures électroniques, afin de pouvoir imputer la responsabilité des actes cybercriminels à des personnes qui sont cachées par l'anonymat ou qui se trouvent derrière des numéros de téléphone ou encore derrière des adresses IP dont l'identité physique est un peu en challenge avec l'identité numérique.
Professeur Kodjon Dukuma, je vous remercie.
Merci.
Y prend fin Interface sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite grâce à l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, réalisé par Jacques-Yves Moulima et Lesho Alassa sous la supervision de Martin Sebujangwe et Jean-Marc Matouaki. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné et présenté. Je prends rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro lundi prochain à 8h30. Vous écouterez la rediffusion de ce numéro mercredi à 15h30 et à 22h. Merci de rester fidèles à Radio Okapi. Au revoir.